Slate Podcast.
Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. David est un homme cis, hétérosexuel, de 40 ans. Il a une épouse et deux enfants. Bonjour David.
Bonjour.
Alors je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ?
On peut se tutoyer.
D'accord. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ?
Oui, ça remonte à une vingtaine d'années, en 99, avec celle qui est devenue ma femme par la suite. On s'est rencontrés en école d'ingénieur et on s'est pas, on était amis au départ. Et la relation a évolué en fait au fur et à mesure, donc on s'est rapprochés. Et donc la première fois c'était, alors on a dormi ensemble avant, on était on va dire explorateurs un petit peu, mais sans aller beaucoup plus loin. Et la première fois a eu lieu quelques jours après dans sa chambre d'étudiante à l'époque. Ça reste un bon souvenir, de mon côté ça a été extrêmement vite, donc il y a toujours un côté un peu, comment dirais-je, un peu vexant pour soi. Parce qu'on se dit que bon, c'était pas forcément génial. En ayant discuté avec elle plus tard, ça reste un bon souvenir pour elle. Elle a pas forcément le souvenir que ça a été très très rapide, etc. Mais c'était très tendre, très hésitant pour les deux parce que c'était la première fois pour les deux. Et oui, ça reste un bon souvenir, mais vrai problème de précocité. Ouais.
C'était pas le cas avant, tout seul.
Bah tout seul sans point de repère, c'est un peu délicat de savoir si effectivement ça va trop vite ou non, et puis il y a toujours un côté plus difficile quand on est tout seul, si on peut potentiellement se faire surprendre, donc trop de temps c'est pas forcément bon non plus dans ces situations là donc oui, ça m'avait pas choqué avant. Après la première fois, je me suis dit que c'était peut-être le stress, l'envie, le désir forcément aussi. Malheureusement oui, ça a pas mal perduré ensuite.
Quand tu dis que ça a duré combien de temps? C'est des années, des mois?
Oh, c'est des années, il a fallu à peu près une dizaine d'années pour que... Alors c'était pas tout le temps, mais c'était quand même assez fréquent. C'est très difficile pour la confiance en soi aussi, parce qu'on sent bien que on passe à côté de choses. Et puis en étant les premiers l'un de l'autre, l'autre difficulté, c'est qu'on... Peut-être que les parades à ça, le fait de varier les choses, d'avoir des périodes préliminaires plus longues, peut-être de poursuivre ensuite de manière plus satisfaisante pour elle, bah peut-être que c'était moins facile en fait d'améliorer la situation. C'est vrai que c'était un peu compliqué, c'était de mon côté vécu comme une souffrance. Elle s'est jamais vraiment plaint.
Vous n'en avez pas parlé.
J'ai essayé, alors des années après, parce que les difficultés, on va dire, ont commencé un peu à apparaître pour un parcours de vie un peu compliqué, pour avoir les enfants d'abord. Où sans aller jusqu'à la PMA, on était en bord de parcours PMA, la question de l'adoption s'est posée, il y avait des facteurs de son côté qui diminuaient les chances, le mien c'était bien mais pas top. Aller chez le gynéco tard le soir pour qu'il dise « Ah, vous êtes dans la bonne période, il faudrait que... » Donc faire du sexe sur commande, c'est pas très très bon pour une sexualité. Et ensuite, bon, il y a les grossesses qui sont vécues de manière plus ou moins facile par les couples. De manière générale, plus on vieillit, plus on se rend compte que c'est un problème général. La difficulté de reprendre après, de pas faire mal, de se retrouver, de gérer le quotidien à côté, la fatigue, etc. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui pèsent sur une sexualité. Donc j'ai vu un sexologue de mon côté d'abord, je lui ai proposé de le voir ensemble, mais qu'elle y aille aussi avant, parce qu'elle avait peut-être des choses aussi, elle, à évoquer. Le fait d'y aller ensemble, elle était partante, le fait d'y aller toute seule avant, elle l'a pas jamais voulu. Et ensuite, j'ai essayé de réaborder le sujet, probablement pas assez. Je l'ai encore fait, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, sans véritable changement, donc je m'y prends probablement mal aussi. Mais elle peut faire l'autruche sur certains sujets, et clairement sur ce sujet-là, c'est le cas. C'est difficile de savoir si c'est une question de désir, si c'est... C'est pas toujours simple. Je pense que la précocité a dû jouer aussi sur la qualité des rapports initiaux, et donc peut-être aussi sur son désir ou son envie par rapport à moi.
Alors, je vais être technique sur cette question, mais quand tu parles de précocité, il y avait quand même une possibilité de pénétration?
je pouvais pénétrer. Après, ça pouvait être une, deux minutes, quoi, maximum. À la rigueur, si j'étais plus fatigué ou que c'était une deuxième itération, ça allait mieux, puisque ça venait moins vite. Et j'ai jamais bien compris d'où ça venait, parce que autant au début, il y avait le stress de pas se connaître, de autant ensuite, bah, la confiance quand même est là, etc. Et pourtant, ça a toujours été compliqué pendant pas mal d'années. Oui.
Pendant cette période-là, est-ce que tu as pris du plaisir quand même ?
Oui, globalement, oui. Je pense que si j'en avais pas pris du tout, je me serais peut-être pas marié. Peut-être, on sait jamais. Mais oui, c'est quand même devenu assez vite assez frustrant, en fait.
C'est pas quelque chose qui reste. Le plaisir, c'est pas un truc qui te reste de cette sexualité, de ces années-là.
Des toutes premières années, oui. Je pense qu'une fois qu'on rentre dans les parcours envie d'enfant, qui se transforme en douleur, il y a des fausses couches liées à donc du sexe sur commande, etc. De pas avoir de grossesse arriver aussi, ou que ça soit très long, de voir les grossesses autour de soi. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, oui, ça devient beaucoup plus compliqué, en fait.
Est-ce que pendant cette période-là, t'as encore une sexualité tout seul ? Est-ce que tu expérimentes de ton côté au niveau masturbation pour essayer de comprendre ?
Ça, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Après, c'est pas forcément facile quand on est en couple de pouvoir s'isoler. Donc, j'ai jamais arrêté. Après, oui, parfois par frustration, clairement. Pas pour jouer tout seul, mais plus pour évacuer une frustration certaines fois, d'autres fois plus sous forme de jeu, donc un peu des deux. Mais effectivement, c'est pas les périodes les plus satisfaisantes sexuellement que j'ai vécues.
On va faire une petite pause dans le récit de ta vie. On va faire un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître sexuellement. En particulier, c'est basé sur le jeu à boire « Je n'ai jamais ». Sauf que c'est un « j'ai déjà ». Je vais te donner des affirmations et tu vas me dire ce que ça t'évoque, soit des souvenirs, soit des fantasmes, soit des choses qui t'intéressent pas du tout, c'est possible aussi. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires.
Oui.
C'était bien.
Ouais, en fait, c'est pas tant l'acte qui est agréable, mais c'est la confiance et le lâcher prise que ça suppose, en fait. Et l'intensité d'un regard pendant une sodomie, c'est quelque chose, parce qu'on sent vraiment toute la complicité en fait entre les amants, et c'est ça qui la rend assez assez incroyable souvent, avec toujours un peu peur de faire mal et de faire attention, mais c'est des souvenirs très très intenses.
Est-ce que la précocité, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé dans le cadre d'une sodomie, ou absolument pas?
Sur la première, oui. Là, très 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 vite.
À cause de l'excitation, là, spécifiquement ?
Ah oui, je pense que c'était la première, l'excitation, et c'est plus le cas. Mais la première, vraiment, oui, c'était immédiat, enfin, vraiment.
Ça donne envie de recommencer, du coup.
Oui.
J'ai déjà été sodomisée.
J'ai déjà expérimenté un doigt pendant une fellation, ce qui m'a encouragé, moi, à tester quelques objets pour voir ce que ça donnait, et on m'a offert un masseur prostatique. C'est particulièrement redoutable.
Donc c'est quelque chose qui te tente, que tu expérimentes seul et à
c'est
deux.
C'est quelque chose que je m'imaginais pas forcément tenter. Le fait que ma partenaire ait eu envie de glisser un doigt et la sensation que ça procurait m'a donné envie de se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à creuser par là ». Et le fait d'avoir essayé un peu, je me suis dit ouais, « c'est quand même pas mal ». Et en discutant avec ma partenaire, elle m'a avoué que son fantasme du moment, c'est qu'elle regardait une vidéo de pegging. Et clairement, oui, ça va s'expérimenter. Après, on verra bien comment ça se passe, si c'est bien ou pas. Disons qu'en ayant confiance et en sentant qu'on peut se relâcher, ça vaut le coup d'essayer. Après, je sais pas si je recommencerai, mais normalement, je devrais essayer.
J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe, ou à n'importe quel autre truc chiant.
Alors, le truc chiant, c'est déjà revenu dans d'autres épisodes du podcast. Ça peut être le cas pour essayer de ralentir certains processus. De manière générale, je suis plutôt à ce que je fais dans le domaine.
Mais t'as quand même essayé. Tu t'es dit, je vais penser très très fort à mon travail.
Bah oui. Après, il y a, quand on aime Friends, qu'on pense à ceux qui pensent à la mère de Chandler, ou voilà, ça travaille.
Et ça marche ? Enfin, c'est quelque chose que tu valides au moins cette méthode, ou pas trop ?
Non, je suis pas sûr que ça ait vraiment fonctionné. Le risque, c'est si on va trop loin, c'est que bah là, il y a plus d'excitation du tout, et donc ça marche pas mieux. Non, dans mon cas, c'était pas plus efficace.
J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre.
J'en suis pas forcément très fier, mais ça a dû arriver une fois ou deux, oui.
Quelqu'un de que tu connaissais ou quelqu'un que tu ne connaissais pas?
Quelqu'un que je connaissais.
Est-ce que ça t'a cassé ton excitation quand tu t'en es rendu compte? Ou est-ce que tu l'as utilisé volontairement?
J'ai presque envie de dire ni l'un ni l'autre. Je pense que l'idée est venue un peu malgré moi. On va dire que ça a servi mon excitation. C'est pas spécialement cool pour ma partenaire.
Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour.
Oui, ça a dû m'arriver. Des toilettes au bureau, ça a dû m'arriver parce que stress ou voilà, besoin de décompresser. C'est reste exceptionnel, mais ça a dû arriver.
C'est pas un truc de fantasme, c'est un truc de stress à gérer.
Ça a dû m'arriver après des conversations téléphoniques un peu particulières aussi, mais ça reste marginal.
On va reprendre le fil de ta vie. Alors, il se passe quelque chose, moi j'ai noté une date. Il se passe quelque chose en 2013, donc 14 ans après ta première fois.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe cette année-là?
Cette année-là, il s'avère que j'étais sur un site internet grand public, sur un forum, pour une raison qui n'avait pas grand-chose à voir. Et j'ai commencé à échanger avec quelqu'un de manière tout à fait amicale, sans sous-entendu, sans arrière-pensée. Bah, comme sur tous ces forums-là, il y a des messages privés, donc on a dû passer en privé parce que peut-être que les détails pouvaient pas s'aborder sur la partie publique, j'ai plus le souvenir en tête. Et on a commencé à échanger sur nos vies, sur nos couples, enfin différents sujets, et puis bah comme pour plein de monde, en fait, ça nous a rapprochés, et puis on a commencé à échanger vraiment beaucoup, s'envoyer énormément de messages.
Ça dure combien de temps, cette phase de rapprochement?
Ça a été assez long, je pense que, enfin, il y a eu les vacances scolaires aussi à ce moment-là, donc il y a eu des périodes où on était soit l'un soit l'autre pas disponible. Ça a dû durer environ deux mois et demi, enfin quasiment 2 mois même avant de s'appeler. Donc c'était vraiment voilà. Et puis après on s'est appelé. Donc le fait de s'appeler, ça montrait quand même déjà que ça passait sur une dimension qui était un peu différente. C'était pas un appel amical, c'était
c'est
un
plus
appel,
intime là, plus le intime. Téléphone.
Et il s'est encore passé, je dirais, un mois avant qu'on se dise que bah, peut-être qu'on allait se voir. Et encore un mois avant qu'on se voit, effectivement. Je suis marié, je suis toujours. Elle était mariée, elle ne l'est plus. Mais à l'époque, elle l'était. Et
vous avez décidé de vous
on
voir
a décidé de se rencontrer,
sans le dire.
Sans le dire.
À vos conjoints,
sans le dire à personne, sans vraiment savoir ce qui allait se passer, puisque l'un comme l'autre, notre conjoint était le premier. Ce qui joue probablement dans le fait aussi de passer à ça, parce qu'il y a un côté nouveauté, expérimentation, de il n'y a jamais eu personne d'autre, et peut-être que... Quand...
À ce moment-là, t'es encore précoce?
Moins, mais ça reste assez fréquent.
Du coup, ça t'angoissait? Dans
oui,
la possibilité qu'il y ait un rapport.
Mais dans les échanges qu'on avait eus, j'avais pas caché, ils m'ont rien caché de ma vie d'ailleurs, mais je lui avais pas caché, et donc on a essayé de se rencontrer en se disant bon, on verra bien. On s'est rencontrés et ça reste une des journées les plus magiques de ma vie. Le courant est passé tout de suite, les sourires, j'étais extrêmement timide, elle m'a fait asseoir sur un banc en me demandant de l'embrasser. Ce que j'ai fait, donc on a passé une journée très agréable, sans aller plus loin. C'est moi qui ai freiné, elle était prête à rester là où on était et à ne pas rentrer. Elle avait un motif. Ça aurait été plus délicat de mon côté, mais je pouvais aussi potentiellement. J'ai freiné. Je me suis pas senti de passer tout de suite à l'acte. Même si évidemment, les embrassades, bon, on va pas se leurrer, c'était déjà être passé dans l'adultère. Même certaines conversations avant, potentiellement était peut-être déjà de l'adultère, mais on s'est commencé plus que clairement l'envie était réciproque de se revoir. On s'est revu à peu près un mois plus tard, où on s'est promené une demi-journée à peu près à tourner autour du pot. J'avais réservé un hôtel et on a fini par aller à l'hôtel. Et là, j'ai pas eu un problème de précocité, j'ai eu un problème de panne totale que je n'avais jamais eu avant. Je pense que clairement le mental a énormément joué, et donc ça veut pas dire qu'on n'a rien fait, mais clairement pas de pénétration possible. C'était
pas d'érection du tout.
Pas d'érection pour une pénétration. Sur la fellation, oui, mais pas sur la pénétration. Je pense que le côté pénétration, je pense qu'il y a un vrai blocage mental et une vraie culpabilité qui a pesé cette fois-là. qui a pesé la fois d'après quand je l'ai vu. Donc on n'était pas proches, donc on pouvait pas se voir, c'était pas une relation, on se voyait de 5 à 7, c'était pas quelque chose qui était envisageable. Et deuxième fois rebelote. Donc toujours très agréable, des jeux entre nous, de l'intimité, une envie folle l'un de l'autre. Mais je crois que la deuxième fois, ouais, encore, je pense que j'ai pas dû réussir non plus. Et la troisième fois, je suis allé la voir. Il était tard, donc c'était pas forcément en théorie des bonnes conditions. Elle avait sorti le porte-jartel. Je n'avais jamais vu une femme réellement devant moi en porte-jartel. Et bah cette fois-là, non seulement j'ai pas eu de panne, et en plus j'ai pas été précoce. J'ai jamais pu m'expliquer pourquoi. Et globalement, les problèmes de précocité ont à peu près disparu à ce moment-là. Je dis pas qu'il y a pas des fois où ça revient, mais globalement, c'est vraiment cette fois-là où je peux considérer que j'ai eu un rapport, on va dire, de durée normale, entre guillemets, s'il y a une normalité là-dedans, mais en tout cas pas trop court, quoi.
Au point de sentir monter le désir, le plaisir, et d'avoir vraiment du plaisir, quoi.
Très clairement. Et puis, j'en ai pas forcément parler par rapport à ma femme, mais c'est une sexualité très plan-plan, très, j'allais dire, restrictive sur les pratiques, sur les positions. Donc il y a probablement de mon fait, hein, clairement, j'ai pas forcément su amener. Ma maîtresse, elle avait beau n'avoir eu qu'un homme dans sa vie, elle avait expérimenté énormément de choses avec lui, et donc, je vais pas dire qu'elle m'a initié, mais sur certaines choses un peu, oui. Et donc oui, énormément de plaisir. C'est des rencontres où, à peine passé la porte de l'hôtel, les vêtements volent, ou le désir extrêmement fort, ou quelques minutes après un premier rapport, on commence un deuxième, et pour une nuit ou pour la journée, sur la façon dont ça se passe. Mais globalement, de rencontrer vraiment pour la première fois une sexualité épanouissante, en fait. Je pense, vraiment.
Est-ce que la découverte du plaisir et cette sexualité nouvellement épanouissante, est-ce que ça a contaminé la sexualité que tu avais avec ton épouse ?
Pas vraiment. On avait relativement peu de rapports à l'époque, ce qui est toujours le cas. Il y a eu un effet, mais qui n'est pas génial rétrospectivement, et c'est que ma femme a appris. Et qu'il y a une réaction de son côté sur le côté, il va chercher ça ailleurs, donc il faut que j'essaye de... Sauf qu'en fait, il y a des choses que clairement elle a pas envie de faire, et je prends pas de plaisir si elle en prend pas. Enfin, pour moi, la sexualité, c'est vraiment le plaisir partagé. Il peut y avoir des décalages éventuellement dans la jouissance, mais on s'arrange pour que les deux prennent du plaisir, et la sentir bloquée sur certaines choses ou ne pas avoir envie, ça m'en donne pas, donc c'était pas encourageant pour continuer. Et puis le côté un peu la pression qu'elle devait ressentir sans que j'ai l'impression de la mettre, mais où clairement elle s'est sentie menacée, fait que en termes de fréquence ça a fait un bond phénoménal, mais qui en fait a duré un mois pour retomber à ce qui était avant. Donc il n'y a pas vraiment eu de redescente positive, un peu plus de variété peut-être sur certaines positions, ce genre de choses, mais pas forcément beaucoup plus. Et après, ce qui est particulier, qui est assez injuste pour elle, mais le fait d'avoir expérimenté ailleurs, d'avoir pris beaucoup de plaisir ailleurs, ça a renforcé encore plus le fait que ma sexualité dans mon couple n'était pas épanouissante du tout, en fait. Et ça, c'est compliqué aussi à gérer, parce que je peux pas lui dire « j'ai fait ça » ou « j'ai fait ça » ou... Et en même temps, évidemment, de son côté, le fait que j'ai été voir ailleurs, ça l'insécurise, ça la rend moins confiante, donc c'est pas non plus spécialement bon pour qu'elle ait plus envie, en fait, tout simplement. Dans quelle mesure ça jouait sur son désir aussi, c'est difficile à dire, donc je peux pas vraiment parler de retombée positive à ce niveau-là. En termes de confiance en moi, pour moi, forcément un peu, puisque avec une autre femme, ça s'est très bien passé, de mon point de vue. Du sien, je pense que j'étais pas assez dominant, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en termes d'expérimentation, de confiance, d'avoir envie de jouer ensemble, de faire plaisir à l'autre, c'était incomparable avec ce que je connaissais jusque-là.
Vous avez pas pensé à la séparation à ce moment-là ?
Je pense que ça lui a forcément traversé l'esprit. Moi, je savais que j'avais pas spécialement d'avenir. Notre relation, j'étais épris. Enfin, je pense que les gens qui ont un amant ou une maîtresse vont voir ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'amour initial qui fait qu'on a le couple et qui est moins passionnel et plus établi, plus qui mêle plein de composantes, les composantes parentales, etc. aussi dedans. Et l'amour plus passionnel avec un amant, la nouveauté, l'excitation, et qu'en fait les deux cohabitent assez bien. Ce qu'on n'imagine pas forcément, enfin pour des gens de mon âge, des gens plus jeunes aujourd'hui, je pense entendre beaucoup plus parler de polyamour, de choses de ce genre, c'est beaucoup moins le cas à mon âge. Donc moi, j'étais pas dans l'esprit de partir. Je pense que ça lui a traversé l'esprit et que, en fait, elle avait déjà fait une partie du chemin avant parce qu'elle avait soupçonné quelque chose et elle avait déjà fait le chemin dans sa tête sur le fait qu'elle était prête à pardonner, je crois. J'aurais préféré que elle l'apprenne pas parce que j'ai vu la douleur que ça lui a fait le jour où elle l'a appris et c'est pas quelque chose qu'on a envie d'infliger à quelqu'un. Surtout à quelqu'un avec qui on s'est marié, avec qui on a fait des enfants et qu'on aime. Mais et c'est compliqué de faire comprendre que on recherche quelque chose ailleurs qu'on n'a pas chez soi. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, je serais probablement plus à même de comprendre qu'elle me dise qu'elle a envie d'aller chercher du plaisir ailleurs. Alors évidemment, c'est plus facile en l'ayant fait moi. Mais de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'amour, qu'il n'y a pas une seule forme de désir et que... le schéma dans lequel on est éduqué fait que on est très un homme une femme mariés pour la vie, alors même s'ils divorcent etc, il reste cette approche, alors que c'est peut-être pas toujours la solution et qu'il y a peut-être un équilibre à trouver autre. Mon seul souci c'est qu'aujourd'hui cet équilibre-là je l'ai pas trouvé encore. J'essaye d'aller par là en sachant que c'est de toute façon pas une solution idéale parce que le fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas son cas, elle le sait pas, mais le fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre et qu'on n'est pas là, je pense qu'il y a une part de douleur qui doit être assez énorme à gérer. Alors peut-être qu'avec le temps, ou avec le fait qu'éventuellement il y ait quelqu'un d'autre de son côté, c'est plus facilement envisageable, mais je pense que les premiers départs et les premiers retours doivent être particulièrement compliqués.
Alors cette femme que tu rencontres en 2013, votre histoire s'arrête en 2014.
Oui.
Pendant quelques années, tu retournes à ta vie maritale.
C'est ça, on ne t'en dit plus jamais.
Et puis début 2018, tu rencontres quelqu'un d'autre.
Oui, donc pareil que la première fois, sans le chercher. Sur un réseau social, je la suivais depuis plusieurs années, avec quelques interactions publiques, mais vraiment rien d'exceptionnel sur ce réseau social-là. Un ou deux échanges privés sur un souci personnel qu'elle avait. Et encore, quand je dis échange, c'était plus une marque de soutien, parce que c'était quelqu'un que je trouvais sympathique et que la sentir... pas très bien dans sa peau à ce moment-là. Je pense que les gens qui sont sur des réseaux sociaux savent que de temps en temps, même si on connaît pas vraiment la personne, envoyer un message de soutien, ça peut être appréciable. Et puis elle est revenue vers moi par rapport à quelque chose qu'elle voulait faire sur ce réseau social. Donc pourquoi pas. On a commencé à échanger un peu en privé. Et j'allais dire rebelote, alors que j'étais très échaudé et que vraiment je m'étais dit plus jamais. La complicité qui apparaît, des échanges assez vite de photos, voire de vidéos, une complicité intellectuelle. De son côté, elle avait aussi eu qu'un seul homme dans sa vie. Là, on s'est appelé beaucoup plus vite que je ne l'avais fait la première fois. Je pense qu'il s'est passé un mois peut-être maximum. Maximum avant qu'on s'appelle, et assez vite on a décidé de se rencontrer. Bon, il s'est passé environ 2 mois au total, mais on s'est rencontrés. Au bout d'une demi-heure, on était à l'hôtel.
Donc pas pareil que la première fois.
Pas pareil que la première fois. Clairement, de son côté, il y avait une envie d'expérimentation qui était là depuis plusieurs années. Je lui ai déjà dit que si ça avait pas été à moi, ça aurait probablement été un autre. Mais la complicité était vraiment là, évidente. Je parlais d'abonnement, première fois, panne.
Tu penses que t'avais toujours le même stress que la première fois?
Oui, ça reste, c'est quand même, il y a le côté adultère, qui revient et qui est pas,
T'es toujours pas ok avec ça?
Non, dans l'absolu, c'est clairement pas satisfaisant. C'est pas appréciable de mentir à quelqu'un, même si c'est par omission. C'est pas mon truc. Alors, je dis panne. Je crois qu'elle m'a dit, non, plutôt peut-être précoce, mais par contre, après le reste de la journée, j'ai pas reparti. Mais ça a été très, très tendre, très proche, commencer à se connaître, et au fur et à mesure des rencontres. Donc là, c'est pareil, c'est pas des 5 à 7, on se voit occasionnellement, donc on se voit sur des périodes relativement longues de plusieurs heures. La complicité, c'est faite. Je pense que la complicité sexuelle, c'est incomparable avec ce que j'ai connu avant. L'envie d'expérimenter de part et d'autre aussi. Le désir qu'elle a pour moi, clairement, qui, bon, en termes d'ego, c'est assez incomparable, le désir que j'ai pour elle, et vraiment cette envie commune de faire plaisir à l'autre. C'est vraiment, je pense que ce qui résume le mieux nos relations, c'est ça, c'est vraiment la recherche du plaisir de l'autre, ce qui fait que ça a une dimension incroyable, quoi. C'est clairement mes relations sexuelles les plus épanouissantes, et étant donné que c'est très tendre en dehors, que c'est pas uniquement basé là-dessus, parce que je peux pas sans affection, sans ce genre de choses, c'est particulièrement épanouissant, ouais. Et c'est là que j'avais déjà expérimenté des choses avec ma maîtresse précédente, mais avec cette amante-là, il y a une dimension encore supérieure.
Écoute, je propose qu'on s'arrête ici pour en apprendre un peu plus sur les expériences que t'as fait dans la vie, et probablement un petit peu avec cette maîtresse-là. Avec la suite de notre petit jeu, toujours je n'ai jamais, toujours les affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour.
Oui, c'est assez excitant, ça restait très très occasionnel, et étant donné les circonstances, très fugitif, on ne garde pas les éléments étant donné la situation, donc...
Tu veux dire que t'as pas un disque dur crypté quelque part ?
Non, clairement pas. Clairement pas. Mais oui, ça m'est arrivé, c'est très plaisant. J'ai un rapport à l'image, les miroirs, donc la vidéo, ça marche bien aussi.
J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement.
Oui, mais aussi.
Et ça aussi, satisfaisant, excitant.
C'est pas ce que je préfère faire. Des photos un peu dénudées ou plus... Oui, ça peut être sympa. Jouer un peu avec les filtres, etc. pour essayer d'avoir un rendu sympa. C'est clairement pas les photos que je fais le plus. Si elles le sollicitent, oui. Mais c'est pas... En tout cas, ça sera pas une mise en scène autour. C'est éventuellement, les attributs sont là, mais pas de manière très explicite. C'est dans le cadre d'un jeu éventuellement, mais c'est pas... Mais oui, la réponse est oui, mais pas fréquemment.
J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour.
Oui. Alors, j'ai fait l'amour sur le sofa d'un hall d'entrée d'école de danse orientale.
C'est très très spécifique.
Voilà.
J'imagine qu'il n'y avait pas de témoins.
Non, l'école était fermée à ce moment-là. Et sur le divan d'examen d'un cabinet médical aussi.
Le cabinet était ouvert par contre, là, j'imagine.
Le cabinet était ouvert, c'était entre les phases de consultation.
C'était des moments que tu as appréciés, le côté extérieur comme ça ?
Alors, extérieur, c'est relatif parce que c'était privé, enfin, c'était fermé. Oui. Oui, clairement. Après, ça faisait partie du cadre des rencontres avec l'une ou avec l'autre. Et une occasion de se voir et de faire l'amour ensemble, ça fait qu'à peu près tout ce qui se passait dans la journée était de toute façon satisfaisant et plaisant.
Donc, ça se refuse pas.
Non, ça se refuse pas. Puis un divan d'examen, c'est pratique, ça se règle en hauteur, tout ça, il y a des choses à faire.
J'ai déjà eu des soucis avec du matériel.
Pour avoir écouté les autres épisodes du podcast, un préservatif qui craque, ça m'est arrivé il y a longtemps. Ensuite, non, globalement, ça reste quand même limité. Si, des éponges absorbantes qui restent bloquées et qu'il faut aider à les chercher parce que vraiment c'est difficile.
Je vais prendre juste une petite minute pour expliquer ce que c'est que les éponges en fait. C'est une éponge, donc il en existe des naturelles, des artificielles, qui s'insèrent dans le vagin pour faciliter le rapport sexuel pendant les règles, donc en fait permettre un rapport sexuel sans qu'il y ait d'écoulement de sang ou de problématiques de fil de tampon, ce genre de choses. Et ça s'est démocratisé par les travailleuses du sexe, et par les actrices porno. Ça se trouve très facilement, on en trouve sur internet, ça se trouve très facilement en pharmacie, mais en tout cas pour avoir déjà essayé ce petit objet, l'idée est bien, mais effectivement... En général, le final est un peu galère, c'est-à-dire que il faut aller chercher cette éponge qui donc n'est tenue par rien, n'a rien de facile pour la ressortir, et énorme galère.
Et là, dans le cas présent, elle n'y arrivait pas seule, donc grosse preuve de confiance pour aider à aller la récupérer. Ouais.
Et il faut aller la chercher, et là, on n'est pas dans un cadre sexuel pour le coup, on est dans un truc de sauvetage, quoi.
Oui, c'est ça.
Et puis, on peut le dire aussi, donc c'est encore plus fort pour les femmes qui ont entendu parler du syndrome du choc toxique depuis des années. Le fait d'avoir une éponge comme ça, pleine de sang menstruel à l'intérieur de soi, on peut pas la garder très longtemps, il faut aller la chercher. Et il m'est arrivé exactement la même chose, j'ai demandé à mon partenaire d'aller la chercher. Et oui, c'est un moment de confiance, mais bon, c'est pas à réitérer, quoi.
Non. On en sourit après, mais sur le moment, on n'en mène pas très large quand même.
Exactement. Surtout que c'est un peu facile de se faire mal dans ce genre de conditions, parce qu'on ne maîtrise pas.
C'est ça.
Donc voilà, un vrai souci avec du matériel.
Ah oui, un vrai souci. Je l'avais oublié, mais il m'est revenu. Oui, c'est un vrai souci.
J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom.
Ah non, c'est ce que j'ai raconté, non.
On va reprendre le fil de ta vie et parler de ta dernière fois. Alors ta dernière fois, c'était avec qui ?
Avec mon amante.
C'était quand ?
C'était mi-décembre. Je suis allé la voir, c'était pas prévu et on s'est pas vu très longtemps. C'était pas forcément prévu qu'on ait des relations par rapport au motif qui faisait que j'allais la voir et au final ça s'est fini effectivement très vite nu et sur un divan d'examen.
C'était bien ?
C'était bien, c'était intense.
Là maintenant vous avez une relation de quasiment 2 ans ?
Plus de 2 ans même.
C'est une relation que tu définis comment ? Vous avez des sentiments l'un pour l'autre ?
Oui, clairement. Après, elle se découvre polyamoureuse, là où on était sur de l'exclusivité entre nous, enfin en dehors de nos couples. Donc 2020 était plus sportif, on va dire, que ça n'avait été les années précédentes. Néanmoins, on avance quand même. Et oui, il y a clairement des sentiments, de part et d'autre. Après, on a nos vies, et ça reste des parenthèses. Mais elle a une place très importante dans ma vie, je pense que j'ai une place très importante dans la sienne, et on profite des rares moments où on arrive à se retrouver, et après on se parle souvent, on échange, on se parle quotidiennement, mais on a chacun nos vies.
Donc ta dernière fois techniquement, fin décembre c'était avec ta maîtresse, c'était quand la dernière fois avec ton épouse ?
Ça devait être à peu près mi-novembre, je pense. Est-ce que c'était bien ? C'était pas mal, mais j'ai envie de dire malheureusement la comparaison avec ma dernière fois avec mon amante, enfin c'est très différent, mais c'est moins plaisant. Disons que je pense qu'on a vraiment une approche différente de la sexualité et des choses qu'on aime. Par exemple, mon amante et moi on se quitte très peu des yeux. Ma femme ferme très facilement les yeux. Ma maîtresse me montre son envie, son désir. Ma femme, c'est moins net. Donc en fait, j'en ressors avec une impression de « c'était sympa, mais est-ce qu'elle me désire vraiment ?» Je suis pas sûr.
C'était une fois prévu ?
Non, c'était spontané.
Donc il y a du désir entre vous quand même, d'une certaine manière, pour que ça arrive.
Ben, on a eu une conversation il y a à peu près 2 mois et demi sur le fait que justement, il y avait quand même un souci sur le sujet, et que bon, ben, ça date pas d'hier, que... J'avoue me poser la question de est-ce que c'est uniquement en réaction à ça, même si c'était pas 3 heures avant, que c'était quelques semaines avant, ou pas, en fait. Et donc, est-ce que c'est si spontané que ça ? J'en suis pas si sûr, en fait.
Mais toi, t'en as eu envie ?
Oui, parce que ma femme, je la désire toujours, mais bon, clairement, sur cet aspect sexuel, on se retrouve pas, ou très peu, et donc, si elle est partante, je suis partant, puisque je la désire toujours et que je l'aime toujours, mais elle est relativement peu partante. Après, j'imagine qu'il y a des choses que je pourrais faire pour qu'elle soit plus partante, mais manifestement, j'ai pas su les trouver.
Pour l'avenir, tu l'envisages comment sur cette question-là ? Alors, j'imagine qu'avec ta maîtresse, la question se pose pas parce que ça se passe bien, mais dans le cadre de ton mariage ?
Bah, dans le cadre de mon mariage, c'est une bonne question, ça pèse quand même de plus en plus. Il va forcément falloir réaborder le sujet, ce qui, bizarrement, au bout d'autant d'années de mariage et de complicité, et d'être parent, etc., bah, la communication sur le sujet n'est pas simple. Et donc le réaborder, c'est pas facile, surtout si on a l'impression qu'en face on fait l'autruche. On va dire que c'est très difficile de se dire que renoncer à tout ce qui a été construit uniquement pour une problématique de sexe, ça me paraît pas suffisant pour un motif de séparation, mais ça pèse de plus en plus. Si on avait des problèmes d'entente par ailleurs, ou là je pense que effectivement ça se terminerait par une séparation, mais c'est pas le cas. C'est le seul sujet sur lequel on se retrouve pas, en fait. On peut finir les phrases l'un de l'autre, on a la même vision d'éducation des enfants, des projets, que ce soit pour la maison, les vacances, les ceci et cela. Donc en fait, c'est le seul domaine où on se retrouve pas vraiment. On s'est trouvé un peu au début, sûrement parce que ben on apprenait tous les deux. Les envies n'ont pas évolué de la même façon. Évidemment, le fait qu'elle ait su que j'ai eu une maîtresse, ça n'aide pas non plus. Donc j'avoue que je sais pas trop comment... J'ai du mal à penser que sexuellement ça puisse s'améliorer. La question, c'est est-ce que ça remet en cause tout le reste ? Et ça, il y a 10 ans, j'aurais répondu non. Aujourd'hui, c'est non, mais c'est compliqué.
Ça va encore évoluer.
Oui, ça risque encore d'évoluer. Après, j'allais dire avec l'âge, ce qui pourrait se passer dans les carrières professionnelles, les enfants qui grandissent, tout ça, c'est sûr que une séparation me serait parue complètement improbable il y a quelques années. Aujourd'hui, ça reste improbable, mais potentiellement, ça pourrait arriver à ça.
Je crois que quoi que tu décides, quoi qu'il se passe dans cette histoire et ou dans l'autre ou les autres, ça ira toujours dans le sens où, de ton bien-être, du fait que tu finisses par aller mieux, à être plus épanoui, plus heureux avec toi-même. Et je crois que dans ce sens, le futur est forcément positif. Et j'espère aussi, évidemment, après toutes ces années, que ton épouse trouvera aussi son équilibre, quel qu'il soit. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage.
Je t'en prie.
C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.